tu peux lancer l'orange. Ouais, voilà.
Ok.
Voilà. Et bienvenue. Pour la rencontre de ce soir, je passe une présentation vite fait sur les modatrices. C'est Imane, docteur en littérature et civilisation à l'Institut national des langues et civilisations orientales, Paris. Et aussi, elle est aussi également co-rédactrice en chef de ce troisième numéro de la revue Trade Union. Et moi, je suis Yenan, je suis doctorante en littérature française à l'Université de Paris 3. Et aussi, je suis co-responsable du cycle de rencontres. Et j'organise le cycle de rencontres avec Odine, qui est membre de la revue, mais qui n'est pas là ce soir. Alors, avant de commencer la rencontre, je présente vite fait la revue Trade Union. Je pense que certaines parmi vous connaissent très bien la revue. Il s'agit d'une revue annuelle, d'abord labellisée par l'Université de Paris 3, et maintenant, c'est une revue ouverte à tout le monde et qui favorise surtout la publication des jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs. Et chaque année, la revue propose un thème spécifique. Et autour de ce thème, on organise le cycle de rencontres et une journée d'études. Et cette année, le thème de la revue, c'est le silence. Et du coup, la journée de l'étude est déjà passée. Il avait lieu au mois de janvier. Et après la journée des études, on collectionne des articles de participants de la journée d'études et la revue, enfin, le numéro 13 de cette revue apparaît en ligne et en papier à la fin de cette année. Et Imane, je te laisse
Yannan.
présenter.
Alors, je présente notre invité, donc Frédéric Lagrange. Vous êtes
Bonjour.
professeur de littérature arabe. Bonjour, merci de nous avoir accordé ce moment précieux. Directeur de l'UFR des études arabes et hébraïques à l'Université.
Précédemment, précédemment, je
Précédemment,
ne suis
d'accord.
plus. Tout
OK.
passe.
D'accord, OK. Vous étiez donc précédemment directeur de l'UFR des études arabes et hébraïques à l'Université Sorbonne. Vos travaux portent entre autres sur la chanson égyptienne, la traduction et aux représentations, s'intéressent également aux représentations du genre dans les littératures et autres productions culturelles de langue arabe, notamment médiévale et moderne. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Islam interdit, Islam de jouissance, paru en 2008. Vous avez également co-dirigé un nombre d'ouvrages, et je cite principalement Les mots du désir, la langue de l'érotisme arabe et sa traduction, paru en 2020. Vous êtes également traducteur, vous avez traduit pas moins de 5 célèbres auteurs et autrices arabes, dont je cite ici les titres, pour ceux qui les intéressent, La satire des deux vizirs du grand prosateur arabe At-Tawhidi, Le laboureur des eaux de la Libanaise Houda Barakat, Les basses œuvres du Saoudien Abd Khal et récemment paru Trois saisons en enfer de l'Égyptien Mohamed Rabia. Donc, au lien avec notre thème, je précise aussi que vous avez également organisé cette année un cycle de rencontres intitulé Il est Janib Habibi, c'est à côté de Habibi, c'est mon amoureux, son amant, qui abordait entre autres la question des normes et leur rejet par la militance LGBTQIA+, issue du monde arabe. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou.
Ça me paraît très, très complet et très flatteur, et je vous en remercie.
Parfait. Et donc, nous avons la tradition à la revue de commencer toujours notre cycle de rencontres par une question afin de briser la glace. En fait, notre question porte justement sur quel événement ou quelle occasion vous a conduit à vous intéresser au sujet tabou. Et on en reviendra justement à cette définition du tabou qui est le corps et le désir dans la littérature arabe.
La surprise. Je crois que c'est en lisant des textes anciens, peut-être en préparant l'agrégation, par exemple, il y a donc très très longtemps où je préparais l'agrégation d'arabe et où nous avions au programme Les Mille et Une Nuits,
Ça paraît une évidence peut-être pour les non-arabisants, et en fait, c'était extrêmement original de mettre Les Mille et Une Nuits au programme de l'agrégation dans les années 80, parce que c'est un texte qui n'est pas exactement un texte de littérature arabe classique, mais de littérature arabe populaire avec une langue qui n'est pas l'arabe classique, mais une langue intermédiaire. Et bon, ça, c'est des détails linguistiques, mais il se trouve que dans les textes qui avaient été mis au programme par le défunt Jamal ed-Din Ben Sheikh, qui a été traducteur des Mille et Une Nuits avec André Michel, également feu, André Michel les a fait paraître à la Pléiade. Il y avait des textes dans lesquels j'étais parfois absolument surpris de l'érotisme ou des détours des récits dans lesquels il y avait un rapport au corps qui demandait interrogation, explicitation. Et puis, par la suite, en lisant d'autres textes de littérature arabe, dont par exemple la satire des deux vizirs que j'ai eu l'occasion de traduire, a priori, il s'agit d'un ouvrage qui est une satire d'un ennemi politique. Hein. La satire des deux vizirs, c'est un courtisan, At-Tawhidi, qui pensait faire fortune en étant un conseiller des princes à l'époque bouillide, au Xe siècle, et qui a la très mauvaise surprise d'être pris de haut par les vizirs auprès desquels il se présente, alors qu'il s'imaginait aller briller à leur cour. Pas du tout, on lui confie une tâche de copiste, et le résultat, c'est que pour se venger, il va écrire un très long ouvrage de satire de deux mécènes, mais qui n'ont pas été des mécènes envers lui. Et je reviens à cette question de la surprise. Là encore, l'obscénité hallucinante de certaines pages, la liberté de ton, ce sont des choses qui m'ont absolument stupéfait et donc incité à travailler sur la question. La question était, comment peut-on dire des choses pareilles? Comment peut-on penser des choses pareilles au Xe siècle ou au XIVe, XVe, quels que soient les moments de rédaction des Mille et Une Nuits? Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de travailler sur ces sujets. Et puis, c'est une surprise qui ne s'arrête jamais parce que, autant on peut la trouver dans de la littérature médiévale, mais on peut également la trouver dans des textes modernes ou dans des productions modernes. Et il y a des publicités égyptiennes dont on se dit qu'elles ne passeraient pas en France. Peut-être parce qu'elles ont un type de allusion sexuelle qui serait peut-être trop grossier actuellement ou qui serait jugé de mauvais ton. Et qu'on trouve pourtant. Mais il faut dire qu'en France, on ne fait pas de publicité pour le Viagra, par exemple. Les pilules érectiles n'ont pas droit à des clips particuliers susceptibles d'être trouvés sur l'Internet ou éventuellement sur des chaînes de télévision. Contrairement au Moyen-Orient, où on peut trouver des publicités pour ce type de produit. Et donc, vous pouvez imaginer que pour faire la publicité d'une pilule érective, eh bien, il y a un discours à tenir sur le fonctionnement du corps masculin et que cela peut donner lieu à des scénettes où on se dit, mais comment ose-t-on même penser des choses pareilles? Donc, je reviens à ma réponse et je conclue, c'est la surprise.
Tu poses des questions, Lina?
Oui, je te laisse.
Ok, ça marche. Merci pour votre réponse. Et en fait, cette réponse nous a surpris aussi. On croyait qu'il y aura des événements plus voilà, très, très majestueux, très, très graves, dramatiques. Voilà. Quand vous avez parlé de Mille et une nuits et l'érotisme, le désir, on aimerait bien savoir, parce que je pense que beaucoup de gens parmi nous, parmi le public de ce soir, ne connaissent pas très très bien la littérature arabe. Donc, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de la littérature arabe, il y a un moment, il y a la question sur le corps, le désir et le sujet sexuel apparaît en abondance dans la littérature arabe. Si oui, pourriez-vous nous situer cette apparition du désir ou la passion amoureuse dans l'histoire de la littérature arabe?
Alors, je crois qu'en fait, on trouve des allusions au corps désirant depuis les premiers textes fondateurs de la littérature arabe. Il n'y a pas eu de littérature écrite avant l'islam. La littérature pré-islamique est une littérature orale qui a été collectée à l'époque musulmane, et donc qui ne remonte qu'un siècle et demi ou 2 siècles avant l'islam. Ce sont des poèmes qui ont été collectés à l'époque musulmane. On s'est dit, mais il faut absolument sauver l'identité arabe, voire même construire une identité arabe. Et pour ceci, il fallait pouvoir répondre aux Grecs avec leurs ouvrages de philosophie, aux Perses avec leurs chroniques historiques, aux Hindous avec leurs compositions philosophiques. Il fallait répondre. Et la réponse était bien, les Arabes, eux, avaient la poésie. Et leur poésie est un mémorial de toute leur histoire. Et donc, on s'est attelé au 8e siècle, au 9e siècle, à rassembler tous ces textes anciens. Et dans ces poèmes, il y a des parties érotiques. Ce sont des poèmes qui partent, pour un lecteur du 21e siècle, qui partent dans tous les sens. C'est complètement multithématique. Mais il y a une section qui est une section érotique et qui est généralement placée au tout début du poème. Un théoricien du 9e siècle de la poésie arabe disait, en fait, on met la partie érotique au tout début du poème parce que c'est ce qui permet d'attirer l'attention de l'auditeur, parce que tout humain aime entendre parler de choses d'amour et de choses de désir. Alors, il y a parfois une version qui est un peu, je ne dirais pas transgressif, parce que transgressif voudrait dire qu'il y a des normes, et du moins qui exprime le désir d'une façon un peu crue, et puis s'est développée par la suite une poésie qui est beaucoup plus courtoise et dans laquelle on évoque particulièrement un amour, une forme d'amour éthéré dans lequel on se meurt d'amour dans l'aimer. Finalement, la poésie arabe a hésité entre, dans son rapport au corps et à l'érotisme, entre deux pôles. Un pôle qui serait un pôle complètement chaste et complètement éthéré, et qui se développe comme une thématique autonome juste après la naissance de l'islam, finalement à la fin du 7e siècle, au tout début du 8e siècle. Et puis un autre pôle qui serait le pôle le plus cru de l'expression transgressive, crue, charnelle du désir, dans laquelle même les actes peuvent être mentionnés et pas nécessairement par métaphore, parfois avec crudité. Et donc, la poésie navigue entre ces deux pôles, allant franchement vers le côté éthéré et chaste, qui a perduré à travers les siècles, ou à certaines époques, une poésie dans laquelle on peut dire des choses extrêmement crues et qui sont éventuellement mêlées avec un mode humoristique d'expression. On ne sait pas très bien dans quelle mesure le jeu du poète renvoie à une véritable identité. On ne sait pas si le jeu du poète est le poète, et a priori, il ne l'est pas. C'est parfois un jeu dans lequel le jeu donne à voir dans des aventures érotiques transgressives. Ça, c'est pour la partie poésie. Puis la prose également s'est développée après l'islam, très souvent sous forme d'historiettes assez courtes. Et par exemple, il y a un livre magnifique qui est un livre du Xe siècle qui s'appelle Le Livre des Chansons. Son auteur est El Isfahani, qui vit lui aussi dans les cours bouillides du Xe siècle. Et son idée est de composer un ouvrage vraiment encyclopédique dans lequel il décide de faire des petites notices biographiques sur soit les chanteurs, soit les poètes dont les poèmes ont été chantés, soit des courtisanes qui ont été connues comme bonnes chanteuses, soit des musiciens. Alors, ça fait des centaines de notices biographiques, et dans ces notices biographiques, vous avez des événements biographiques ou pseudo-biographiques qui sont assignés à ces courtisanes, chanteurs, poètes, etc. Et ces histoires, on le sent bien avec un regard du 21e siècle, ont une évidente partie de fiction. Et dans ces fictions, vous avez un érotisme parfois torride et tout à fait inattendu dans ces textes.
Parfait, vous citez donc des poèmes, vous parlez un peu des poèmes, vous textez de ces historiettes. Et selon vous, en fait, la tonalité de l'écriture du désir lui-même dans la littérature classique et moderne, on viendra tout à l'heure à la littérature médiévale, est-ce que cette tonalité de l'écriture, selon vous, est-elle similaire? Est-ce qu'il y a-t-il un genre, selon vous, qui a perdu sa force transgressive dans l'écriture du désir?
Alors, pour transgressif, c'est toujours transgressif par rapport à la norme d'une époque. Ce qui est transgressif, je veux dire, ma grand-mère me disait que quand elle était jeune, elle n'allait pas dans un café sans avoir un chapeau parce que ça aurait été extrêmement mal vu. Vous voyez que en 2023, ce n'est pas franchement une transgression que d'aller dans un café sans chapeau. Donc, plaisanterie simplement pour vous dire que qualifier de transgressif, ça veut dire transgressif par rapport à la norme d'une époque. Et puis, à une même époque, il y a plusieurs normes. Qui ne sont pas forcément les mêmes, qui peuvent être concurrentes, qui peuvent être convergentes, mais concurrentes ou avoir des nuances. Il y en a une qui bouge peu, pas, qui est la norme religieuse dans le cadre du monde arabo-musulman, qui est la norme islamique. Celle-ci, elle ne bouge pas, mais elle n'est pas la norme, comment dire, la norme sexuelle de la religion n'est pas nécessairement la norme sexuelle de la société. Il y a un écart, il y a une différence entre les valeurs produites par une société et la religion dominante de cette société. Les sociétés arabo-musulmanes n'ont pas une morale qui est purement tirée du un texte fondateur de la religion dominante. Il y a aussi des conceptions qui sont elles-mêmes héritières de conceptions sociales plus anciennes ou qui se sont développées. Alors, je vais revenir à la littérature, à votre question. Il y a sans doute un moment crude de la littérature arabe qui serait le début du XXe siècle. Pourquoi cette littérature devient-elle plus prude? Sans doute parce que l'écrit passe d'une production élitiste à une production de masse. Et l'on ne peut pas tenir le même discours si tout le monde a accès à l'écrit que si uniquement une poignée de privilégiés peuvent se payer les services d'un copiste qui va aller rechercher un manuscrit et va aller à grands frais vous produire en 2 mois ou 3 mois de travail éclairé par une bougie pendant toutes les nuits, votre exemplaire de tel ou tel texte. Donc, il me semble qu'avec l'apparition de l'imprimerie à la fin du 19e siècle, avec les progrès de l'enseignement et le fait que de plus en plus de personnes savent lire et écrire dans le monde arabe à partir justement du 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a une première raison pour que le ton se fasse beaucoup plus prude. Il y en a une autre qui est le choc impérialiste slash colonial selon les époques avec l'Occident. Le fait que lorsque l'Europe étudie, examine, puis prend pouvoir sur les régions du monde arabo-musulman, elle voit le monde arabo-musulman comme un monde du stupre et de la débauche. C'est peut-être l'inverse de l'idée qu'on aurait aujourd'hui d'un rigorisme de cette région. L'imagination orientaliste va construire l'Orient comme le lieu de la lascivité même. Or, cette construction orientaliste est vue, elle est connue par les habitants et les intellectuels du monde arabo-musulman qui voient dans ce miroir de l'autre européen, se voit dépeint d'une façon horrible qui les choque et qui amène également à cette plus grande pruderie dans le discours tenu. Troisième raison, c'est l'accession des femmes à l'espace public et à l'éducation. Il y a toujours eu des femmes qui ont su lire, écrire et qui lisaient. mais ce n'étaient pas des productrices de littérature. Et par exemple, dans le livre des chansons, là je parle du Xe siècle, les femmes savantes, eh bien, ce sont fondamentalement, ce sont les chanteuses qui sont aux franges de la prostitution, ou ce sont des concubines, si vous voulez. La femme libre, honorable, on ne sait pas si elle est éduquée, mais en tout cas, elle n'est pas dépeinte dans ces productions médiévales très anciennes. Alors que fin du 19e, 20e, le discours des intellectuels du monde arabe est sur l'absolue nécessité de la participation des femmes à la construction de nouvelles nations, à cette aspiration à une modernité sur un modèle européen. Et ça, à partir du moment où il y a mixité dans l'espace public, à partir du moment où les jeunes filles pures, supposées pures, hein, puisqu'une jeune fille par définition est supposée avoir l'esprit pur, à partir du moment où les jeunes filles ont accès aux livres de la bibliothèque de leurs parents et aux livres des bibliothèques tout court au sens public du terme, eh bien, on ne peut plus écrire n'importe quoi. Donc, on va avoir ce moment prude que l'on pourrait situer entre le dernier tiers du 19e siècle jusque au milieu, deux tiers du 20e siècle. Disons qu'on va avoir le siècle prude. Mais ça se libère aussi à partir des années 60 et 70, et le désir va commencer à réapparaître, refaire son apparition dans la littérature arabe. C'est un cliché de dire qu'il y a trois tabous dans la littérature arabe qui seraient la religion, le politique et le sexe. Il me semble que, dans une certaine mesure, la religion reste toujours un tabou, ce qui n'empêche pas d'en parler, mais disons c'est un semi-tabou. Les deux autres sont tout sauf un tabou, actuellement. Et en ce début de 21e siècle, la littérature arabe peut exprimer le désir. Alors, est-ce que maintenant ça veut dire qu'il y aurait par exemple une possibilité pour une littérature, bah, par exemple de type pornographique dans le monde arabe? Pourrait-elle être publiée? Je suis désolé, il y a une perceuse qui vient de décider de. J'espère que vous ne l'entendez pas trop au-dessus de moi. De la littérature pornographique se présentant comme pornographique ne pourrait pas être publié, ça c'est sûr. Là, il y aurait une censure qui est, selon les pays a priori ou a posteriori, qui tomberait, qui empêcherait publication de ces œuvres. Mais est-ce que maintenant il peut y avoir des passages à la limite du pornographique dans des œuvres littéraires actuelles? Oui. Est-ce que la censure les touchera? C'est une roulette. C'est la roulette russe. L'auteur égyptien Ibrahim Nagy en a fait l'expérience douloureuse il y a 7 ou 8 ans, où il a été condamné pour obscénité et pornographie. Ça aurait très bien pu ne pas se produire. La raison, en fait, est que une revue littéraire égyptienne, Kérot, a décidé de publier des extraits de ce roman et a choisi les passages les plus croustillants, qui ne sont pas nécessairement les plus représentatifs du roman, mais ce sont vraiment les passages les plus crus dans lesquels qui ont été choisis. Et là, effectivement, comme très souvent ce peut se produire dans le monde arabo-musulman, un lecteur s'estime choqué, outré, et attend un procès parce qu'il considère qu'il y a atteinte aux bonnes mœurs. C'est l'État, dans ce cas-là, doit réagir. Et c'est la roulette russe. Il s'est trouvé un juge particulièrement sévère et conservateur qui a mis cet auteur en prison. Ce qui a déclenché une campagne tout à fait justifiée de presse dénonçant une atteinte effectivement intolérable à la liberté d'expression littéraire. Mais maintenant, un autre livre pourrait parfaitement passer avec un passage du même. Enfin, en 2023, on va peut-être hésiter à cause de l'aventure de peut-être 2017, mais en tout état de cause, c'était. La roulette russe aurait très bien pu passer. Ce sont des hasards qui font que il n'y a pas une censure au préalable. Elle est a posteriori et on voit ce qui se passe. Et parallèlement, on pourrait vendre actuellement des textes médiévaux tout aussi pornographiques, voire même plus. La différence, c'est que les textes médiévaux étant écrits dans une langue médiévale et demandant un niveau très solide d'arabe et demandant au lecteur de pouvoir, en quelque sorte, traverser la barrière première, qui est la barrière de la difficulté linguistique, personne ne va aller y voir. Parce que finalement, on revient au modèle d'une littérature de l'élite, et pour comprendre que c'est pornographique, faut déjà comprendre.
Parfait, merci.
Merci pour votre réponse et merci d'avoir éclairci sur plein de choses et de corriger notre cliché très très figé sur ces sujets. Et vous avez parlé de la liberté d'expression et la censure. Et justement, on a une question dans le chat qui est en liaison avec ce sujet. C'est Ayman qui a posé cette question. Il dit, je travaille sur la censure et du langage tabou dans les productions audiovisuelles traduites. Et je m'intéresse ainsi à l'usage de ce type de langage dans la littérature de manière générale. Pourriez-vous nous citer des œuvres qui utilisent un langage tabou cru, s'il vous plaît?
Est-ce que il s'agit d'œuvres actuelles ou d'œuvres médiévales? La question porte sur l'obscénité dans le registre médiéval ou l'obscénité dans les productions culturelles contemporaines actuelles?
Peut-être Ayman. Des œuvres, il a dit des œuvres arabes de manière générale.
Alors, je donnais l'exemple du livre des chansons. Le livre des chansons n'est pas intégralement traduit, il y en a 3000 pages. Il y a dans le livre des chansons tout un ensemble de passages qui sont d'une obscénité extrême. Il y a, dans Les Mille et Une Nuits, il y a des passages obscènes. La poésie de Abou Nouas peut être parfaitement obscène. Il y a une poésie scatologique, qui a également été développé au Xe siècle, dans lequel c'est une obscénité qui mêle à la fois la sexualité et la pisse, la merde et les pets, mélangés à tous les désirs du corps. Cette poésie est extrêmement obscène et elle visait à faire rire par son obscénité. Par exemple, à l'époque moderne, je citais donc le roman de Ahmed Nagy, Istikhdam al-Khayal, l'utilisation de la vie, dans lequel il y avait un passage particulièrement leste. On peut avoir des passages dans lesquels il y a de l'obscénité, mais où elle est peut-être plus allusive et où les mots les plus crus ne seront pas nécessairement utilisés. Mais je pense par exemple à Salwan Naïmi, la preuve du miel, je crois. Je ne sais pas si la traduction est la preuve par le miel ou la preuve du miel. Burhan al-Asal en arabe. Salwan Naïmi a été traduit et vous avez des passages extrêmement lestes dans ce roman. Comment dirais-je, vous avez, si on prend le premier roman récent de littérature arabe dont le narrateur est homosexuel et se revendique comme homosexuel, vous avez un passage vraiment très clair où il regarde, il habite dans une habitation avec une ruelle qui donne sur une pissotière publique où il regarde les hommes pisser, le sexe des hommes, où ses premiers rapports sexuels, c'est très direct, c'est décrit sans détour de ce côté-là. Donc, je pense qu'un grand nombre d'œuvres, aussi bien classiques, enfin, au sens de médiéval que moderne, peuvent avoir des passages qui seraient considérés comme choquants par une partie très importante de la population. Je vais même vous donner une petite anecdote à propos justement de l'utilisation de la vie d'Istikhdam al-Hayat d'Ibrahim Nagy et du procès qu'il avait subi, de la mise en prison. Il nous avait été demandé à mon collègue et ami Richard Jacquemont, professeur de littérature arabe moderne à l'université d'Aix-Marseille, et à moi-même, de traduire le passage justement qui avait valu toutes ces avanies à son auteur, Ibrahim Néguy. Et dans lequel on avait le passage dans lequel il y avait quelque chose comme sucer des bites qui était dit vraiment avec l'équivalent de ce registre de langue en arabe. Plusieurs passages. Et bref, ça devait être publié dans Le Monde. Et l'immense surprise que nous avons eue, Richard et moi-même, c'est que lorsqu'il y a eu tout l'article sur ce qui arrivait à Ibrahim Néguy et publication des extraits de l'œuvre, eh bien, les passages les plus obscènes ne figuraient pas justement dans ce qui a été publié par Le Monde. Alors, je ne sais pas si c'est parce que pour Le Monde, on ne peut pas sucer des bites écrit à l'encre sur la page du plus grand journal français, ou si c'était une décision absurde. Mais fondamentalement, on se moquait ou on s'outrageait de cette censure égyptienne portant sur les bonnes mœurs, mais les mots même qui avaient valu ces avanies à l'auteur ne figuraient pas dans dans la traduction publiée par Le Monde.
Alors, nous avons invité, non, pardon, nous avons, je pense que c'est Aïmen qui veut prendre la parole en réponse à. Allez-y, je vous en prie.
S'il vous plaît. Merci pour votre réponse. Alors, en fait, je pensais à quelque chose techniquement. Je lisais depuis quelque temps des articles qui parlaient de l'utilisation du langage tabou dans la littérature arabe, qu'elle soit de la vieille littérature ou de la littérature contemporaine. Et en fait, la plupart du temps, concrètement, en fait, quand on prend un livre, supposons que là, j'ai devant moi un livre, quand je suis en train de lire le passage là où il y a l'usage de langage assez cru, en fait, on ne voit pas le mot en entier. On utilise soit des pointillés, soit des astérisques, soit des symboles pour que ça fasse l'effet du bip sonore qu'on entend dans les productions audiovisuelles. Du coup, moi je pensais, en fait, là c'est clairement c'est une forme de censure parce que on essaie de gommer en quelque sorte les mots tabous, on ne les écrit pas clairement, mais en même temps, ça attire également l'attention du lecteur quand on est en train de les lire. Si vous
Je vais vous
passez.
répondre. OK, je vois bien la question. Ce à quoi vous faites allusion est généralement les éditions du milieu du XXe siècle de poèmes médiévaux dans lesquels il y a des obscénités. Alors, désolé, je n'arrive pas à empêcher ce téléphone de sonner. Je ne sais pas comment empêcher le téléphone de sonner sur l'ordinateur. Bien. Ah, et en faisant ceci, j'ai des problèmes de son qui ne devraient pas apparaître.
Non, là,
Ok,
c'est bon.
j'espère que c'est bon, que c'est à peu près réglé. Excusez-moi, je vais dire à la personne de surtout pas appeler pour éviter le même problème. Excusez. Bien. Parfait. Alors, je reviens. Donc, ce à quoi vous faites allusion est donc les éditions du milieu du XXe siècle, ou du début jusqu'au milieu du XXe siècle, d'un certain nombre d'ouvrages médiévaux. Alors, évidemment, ces trois points ne figurent en aucun cas dans les manuscrits. Les manuscrits ont les mots obscènes. Et c'est justement ce que je qualifiais du siècle prude de la littérature. C'est lors de ce siècle prude que certains éditeurs ont pris la liberté de caviarder, de changer des obscénités par des trois petits points, etc. Il y a un exemple célèbre, par exemple, dans un texte du 11e qui s'appelle Les Maqamat, qui sont des petites historiettes, et où, dans un des récits, un récit qui est tout à fait truculent, des espèces de brigands essayent d'escroquer un village en se faisant passer pour des médecins et en prétendant qu'un homme qui vient de mourir et qui est donc tout le village est en train de le pleurer, prétendent, mais non, pas du tout, nous pouvons le ressusciter, il n'est pas mort, nous allons, et qui... prétendent que le malheureux cadavre est celui d'un homme encore vivant, et il y a un moment où, comique, ils mettent un doigt dans l'anus du cadavre. Et effectivement, le mot « anus » en arabe médiéval « est » est changé par un autre mot, par l'éditeur du texte arabe de 1900, dans un geste typique de cette pruderie où on castre en quelque sorte la littérature ancienne. Alors, ça n'a pas été l'attitude de tous les éditeurs, et surtout, c'est quelque chose qui, a priori, ne serait plus acceptable de nos jours. D'autant plus qu'il y a toujours des éditions différentes de textes médiévaux. Donc, si on a la malchance de tomber à Ayman sur une de ces éditions dans lesquelles vous avez des trois petits points à la place du mot « haïr », par exemple, qui est le terme générique dans la littérature médiévale pour désigner le sexe masculin, ou trois petits points à la place de « naïk », qui est la copulation, le terme générique de la copulation. Ne vous en faites pas, vous arriverez toujours à trouver une autre édition du texte dans laquelle le mot sera bel et bien là et vous pourrez jouir de son obscénité tranquillement.
C'est bon, c'est bien. Ok, parfait, parce qu'il y avait la main.
J'ai d'autres questions, mais je ne voudrais pas monopoliser la discussion. Donc, si vous avez d'autres questions, je pourrais attendre, il n'y a pas de souci.
D'accord, ok. Alors, vous avez parlé justement, cher Frédéric, de les traces du désir, du corps désirant désiré. Là, on va revenir plus particulièrement à la période médiévale qui est très intéressante, puisqu'en comparaison avec l'époque moderne, bien sûr, vous avez dit que c'était les traces du corps étaient un petit peu allusives ou un petit peu moins importantes. Alors, pourriez-vous nous présenter, s'il vous plaît, le topos poétique de l'homo-érotisme qui est propre à l'époque médiévale et nous dire justement, est-ce que cette expérience d'homo-érotisme était une expérience vécue par l'auteur lui-même, l'auteur du texte, ou n'était-ce que finalement en fait la naissance et l'expression d'un genre littéraire qui a trouvé en fait un lectorat à une période particulière dans une ère géographique particulière, je pense particulièrement à l'Andalousie.
Alors, il n'y a pas de thématique homo-érotique à l'époque anti-islamique. L'érotisme anté-islamique est exclusivement hétéro-érotique, et la même chose pourrait se dire en gros du premier siècle de l'islam, dans lequel les productions littéraires, donc essentiellement poétiques, n'ont pas d'allusion ou de contenu homo-érotique. On pourrait considérer que l'apparition de thématiques ou d'allusions homoérotiques, essentiellement en poésie, commence avec la seconde partie du 8e siècle et à partir du 9e, et ce jusqu'à la fermeture, donc en gros la fin du 19e. Cette thématique-là va apparaître. La raison de son apparition est peut-être due à la présence de thématiques plus anciennes et présentes dans les aires culturelles qui vont être islamisées petit à petit et arabisées petit à petit. Ça peut être la réapparition d'un substrat, en quelque sorte, qui va s'arabiser et s'islamiser dans ses références. Sa nature transgressive au regard de la loi religieuse est évidente au début de l'apparition de cette transgression. C'est-à-dire qu'elle se revendique comme étant une transgression des règles religieuses. Mais en même temps, cette thématique va pouvoir être admise littérairement Sans doute parce que, contrairement à la loi religieuse, elle est tolérée socialement. Les sociétés médiévales et les sociétés traditionnelles du monde arabo-musulmane placent une valeur extrême dans la pureté du lignage qui est intrinsèquement liée à la chasteté féminine. Et donc, fondamentalement, féminine, on parle ici des femmes libres, au sens de femmes de statut libre. Personne ne s'intéresse évidemment à la pureté du lignage des esclaves, des servantes ou des paysannes qui sont toutes aussi libres. Mais bon, c'est autre chose. Mais là, parlons de la bourgeoisie citadine. L'important est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le lignage. Donc, la surveillance de la femme est extrême. Mais cela veut dire en contrepartie qu'il peut y avoir des pratiques sexuelles qui vont complètement à l'encontre de la morale religieuse, mais qui sont fondamentalement tolérées parce qu'elles sont moins graves. Elles ne portent pas atteinte à ce qui est le cœur et qui est la nécessité de s'assurer qu'un fils, c'est bien le fils de son père, qu'il n'y a pas de doute sur le lignage. Donc, socialement, il y aura, que ceci soit ou pas une résurgence ou une continuation d'usages plus anciens de ces sociétés, il y aura une certaine tolérance pour une sexualité entre personnes de même sexe. Par contre, ce qui est original, c'est son expression littéraire, le fait qu'il y ait également une tolérance pour son existence en tant que thème littéraire. Ce sera d'abord un thème poétique, un thème poétique dans lequel le poète se présente comme le transgresseur et toujours dans le rôle actif. C'est dans le cadre d'une relation entre hommes, il y a une différence d'âge. Je vois que Louis-David pose la question. Alors, il y a déjà une première différence d'âge. L'énonciateur, le poète ou le je du poète, en tout état de cause, se présente comme étant, s'identifie comme un homme, l'objet du désir est identifié comme étant de sexe masculin, mais est un pré-homme. En quelque sorte, c'est un adolescent, jeune adulte. Un topos homoérotique sera celui de l'apparition de la première barbe fournie. L'objet du désir est-il toujours désirable à partir du moment où il est barbu? Alors, vous voyez que le terme même d'homosexualité n'est pas tout à fait adapté parce que dans homosexualité, il y a idée d'une attirance pour ce que l'on conçoit comme le même, alors qu'à partir du moment où il y a différence d'âge, de condition et d'apparence physique, c'est homme vers jeune homme, homme vers adolescent. Le sujet énonciateur est un conquérant, partenaire pénétrateur dans une relation sexuelle avec un mâle plus jeune. Ça ne veut pas dire que c'était ainsi en société, pour revenir à la question que vous posiez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des hommes d'âge mûr qui avaient des relations avec d'hommes d'âge mûr. On n'en sait rien. Supposé, comme partout dans le monde. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a une légitimité d'un topos littéraire qui est celui de l'attraction présentée comme drôle, facétieuse d'un homme adulte, quel que soit son âge, pour un jeune adulte ou adolescent. Donc ça, c'est la version première, celle qui apparaît en gros, à partir, disais-je, de la deuxième partie du 8e siècle, et va se développer ultérieurement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, exactement comme dans la version hétéro-érotique, nous avions un pôle chaste et un pôle transgressif, mais la même chose va arriver dans le pôle, pardon, dans la version homo-érotique, avec cette fois-ci l'apparition ultérieure d'un pôle chaste de l'homo-érotisme, où donc un homme se meurt d'amour pour un adolescent, mais ne le touche absolument pas, et où tout l'enjeu littéraire est d'exprimer cette langueur extrême, cette maladie d'amour, la dépression, et éventuellement la mort qui suit la passion. Et c'est une illustration des méfaits de la passion. Et on trouvera, puisque vous faisiez allusion à la littérature andalouse, on trouvera dans les récits du collier de la colombe de l'Andalou Ibn Hazm, au 12e, 11-12, on trouvera des récits aussi bien hétéro-érotiques que homo-érotiques qui illustrent le fait de se mourir de passion pour l'objet de son amour. Et il n'y a pas de différence fondamentale entre cette douleur d'aimer, cette façon de s'anéantir dans l'objet de son désir, que cet objet soit du même sexe ou soit de l'autre sexe. Tout ceci est de l'ordre de la passion et d'un discours sur la passion. Donc on voit qu'il y a, on commence par la version transgressive, éventuellement franchement obscène de l'homoérotisme, et puis elle va trouver son pôle chaste. Et ceci, on le trouvera jusqu'à fondamentalement le milieu du XIXe siècle dans les productions littéraires. Est-ce que il y a toujours, est-ce que le sujet énonciateur est toujours donc l'actif, le partenaire actif? A priori, oui, en poésie. Avec simplement quelques rares exceptions qui peuvent être de l'ordre de la plaisanterie, où on va, de façon là beaucoup plus transgressive encore, pouvoir éventuellement se montrer comme partenaire passif. Mais là, on entrerait dans le domaine de l'anormal, en quelque sorte. Si dans une logique moderne, il y a une relation sexuelle entre deux personnes, ça implique que fondamentalement, il y ait un partenaire actif, un partenaire passif, ou un échange de rôles, ou les deux sont, peu importe. Mais il y a les deux pourraient parler, alors que dans la littérature médiévale, la voix est la voix de l'actif. Quand il y a une voix du passé, on peut trouver une voix du partenaire passif, mais beaucoup plus que dans la poésie, on va la trouver dans des anecdotes de littérature de prose, qui va mettre en scène des partenaires, des personnages, des bouffons destinés à faire rire, qui vont dire des horreurs particulièrement scabreuses et obscènes dans le cadre d'un discours qui peut être un discours là érotique. Dans un manuel d'érotisme comme celui de Tifashi, que vous pourrez trouver, qui est traduit et qui est un ouvrage de la Tunisie du XIVe, vous avez les partenaires passifs discutant des pénis les plus valorisés dans le cadre de la pénétration. Est-ce qu'il faut, avec les quatre catégories, tous les croisements de court, long, mince, épais, et alors on a la description des phallus, et ce sont des textes qui sont profondément hilarants. La question qui se pose, c'est mais est-ce que c'est sérieux tout ça? Ça n'est pas forcément. Cela peut être une plaisanterie. Vous posiez la question, je crois que c'est Iman qui me disait, est-ce que le sujet parle de lui-même? Je crois que quand la thématique naît, est-ce que Abu Nuwas, qui meurt vers 815, est-ce que c'est complètement fictif le fait qu'il raconte ses aventures avec des adolescents? Eh bien, le nom des adolescents, les circonstances dans lesquelles ça a été fait sont probablement fictives, mais le fait qu'il aimait les adolescents, on peut penser que c'est un petit peu réel. Et puis la récurrence, la légitimité d'une thématique dans une société dit quand même quelque chose sur cette société. Je veux dire, et il n'y a aucune chanson de Elvis Presley qui fasse l'apologie de la première barbe des adolescents. Ou alors je ne l'ai pas entendu. Et de même, aucune chanson de Beyoncé sur la beauté des jeunes pages et leur première barbe. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas quelque chose de légitime littérairement, socialement. Si cela se fait pendant des siècles et des siècles dans cette culture, cela veut dire que c'est légitime. Mais à partir du moment où c'est installé, si on est dans un auteur du 9e qui dit « j'ai conquis et j'ai pénétré telle jeune page, on lui donne contre deux pièces d'argent, etc. » avec quelques détails, on peut se dire que ça a bien dû se passer. Maintenant, quand vous avez un auteur deux siècles plus tard, trois siècles plus tard, dont on sait par sa biographie qu'il est marié, trois enfants, adorait sa femme, et qui, dans une multiple production littéraire, a trois ou quatre poèmes dans lesquels il décrit dans un langage cru ses polissonneries avec tel ou tel jeune tailleur qu'il aurait lutiné derrière une échoppe, là, c'est moins évident. Là, ça peut être simplement le fait pour quelqu'un qui n'est absolument pas concerné, qui n'a jamais eu la moindre attraction pour le moindre adolescent, de composer dans une veine littéraire parce que c'est un sujet comique plaisant à la mode dans lequel on pourra échanger des bons mots à la cour de tel ou tel vizir ou de tel ou tel émir de province. Je crois qu'il faut regarder au cas par cas et effectivement ne pas considérer. De toute façon, on ne peut jamais penser que le jeu du poète est autobiographique. Mais est-ce qu'il est complètement détaché d'une expérience humaine? C'est à voir. Cela dépend. Et puis, très souvent, les poètes ont des pseudo-biographies que l'on trouve dans des ouvrages qui leur sont assignés, dans lesquels il y a une dimension fictive qui est indéniable, mais la fiction ne naît pas du néant.
Merci beaucoup pour votre réponse. Et maintenant, on pense que pour la prochaine question, on va introduire la perspective du genre dans le sujet de l'homo-érotisme. Est-ce qu'il nous semble que l'homo-érotisme masculin est plus visible dans l'espace public? Est-ce que vous êtes d'accord?
Visible dans l'espace public, non. Visible dans la littérature, littérature qui est une littérature savante de Cénacle. Donc, on n'est pas exactement dans un espace public. On est dans un écrit qui est un écrit circulant entre gens cultivés, fondamentalement. Maintenant, si la question est-ce qu'il y a une surreprésentation de l'homoérotisme masculin par rapport à l'homoérotisme féminin, oui, assurément. D'abord parce que la veine transgressive, celle que l'on appelle moujoun en arabe, qui désigne tout ce mode transgressif en littérature, le moujoun s'intéresse énormément à la pénétration. À partir du moment où il n'y a pas pénétration, déjà ça l'intéresse beaucoup moins. Et la sexualité non pénétrative est peu, comment dirais-je, traitée littérairement par cette littérature crue. Y compris au fait que, par exemple, la fellation est quasi inconnue de cette littérature médiévale. Voilà quelque chose qui va dans le sens d'un écart entre la réalité des pratiques et ce qui s'écrit. C'est que, si vous permettez ceci, les transgressions sont normées. Je veux dire par là que ce sont toujours les mêmes transgressions que l'on voit se répéter de production littéraire en production littéraire. Et dans le cadre de la civilisation arabo-musulmane, bien transgressions usuelles, donc si vous permettez cette... Je perds le terme technique. L'obscure clarté, c'est un.
J'ai perdu en arabe.
J'ai perdu.
Oxymore.
Oxymore, merci. Si vous permettez l'oxymore de la transgression normée, les transgressions normées, c'est le fait de boire du vin et c'est le fait d'avoir une sexualité pénétrative non illicite au regard de la religion. Qu'elle soit illicite dans son versant hétérosexuel ou dans son versant homosexuel. Mais il y a des pénétrations. lapsus révélateur. Il y a des transgressions qui n'intéressent aucunement cette littérature. Il n'y a aucun poème sur le délice du sandwich au jambon dans la littérature arabe. Ce type de transgression n'intéresse strictement personne. Alors évidemment, probablement parce que déjà, le vin est un modificateur de comportement, ce que n'est certainement pas le rôti de porc. Mais l'idée au-delà des plaisanteries est que on parle toujours des mêmes, quasiment. Alors, pour la sexualité entre femmes, on la trouve. On va la trouver encore une... Mais on ne va pas la trouver en poésie. Parce que la poésie est affaire d'hommes, essentiellement, et qu'elle s'occupe, qu'elle soit chaste ou obscène, elle s'occupe de préoccupations d'hommes. On va trouver la sexualité entre femmes dans ces courts récits, akhbar, que nous trouvons dans les ouvrages de littérature médiévale. On la trouvera également dans les manuels d'érotisme, où il pourrait, le tifesh auquel je faisais allusion, a également des sections sur la sexualité entre hommes. Vous aurez des ouvrages érotiques, dans l'érotologie arabe médiévale, oui, il y aura des anecdotes dans lequel des femmes exprimeront, on leur donnera la parole, hein, diront préférer les femmes aux autres hommes. En même temps, très souvent, puisque c'est une littérature fondamentalement écrite par des hommes, il y a assez souvent une façon de rassurer l'homme sur l'efficacité du phallus roi. Et après avoir vécu des amours heureuses entre femmes, il y a tout de même un moment où elles découvrent émerveillées le phallus, et d'un seul coup, l'instrument qui leur manquait et qui manquait à l'accomplissement de leur plaisir fait son apparition. Pas dans tous les cas, mais il y a quand même une espèce de crainte. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui pourraient trouver un plaisir sans qu'il y ait la pénétration phallique? Il y a quelque part un impensable auquel on trouve... Il y a un happy end de l'arrivée de l'homme qui vient leur faire la révélation de ce qu'est le vrai plaisir. Mais pas toujours. On a quand même effectivement un espace dans lequel est narré un plaisir autre que celui qui est provoqué par l'homme, qui est... Alors maintenant, est-ce que si la question se pose sur la littérature moderne, personnages de lesbiennes existent dans plusieurs romans, amours lesbiennes peuvent exister en littérature arabe moderne, le ton est généralement plutôt, on ne va pas dans le sens de l'obscénité, l'obscénité est masculine de toute façon dans sa production, mais là encore, s'agit-il d'un tabou? Non, pas vraiment, ça existe.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, nous avons l'habitude de couper en général cette rencontre par un petit intermède. Et au vu de ce cycle de rencontres auxquelles nous avons assisté, que vous avez organisé à l'Institut du monde arabe, nous avons concocté une petite question, mais aussi un petit peu avec quelque chose de personnel, parce que j'ai vécu également en Égypte pendant 10 ans. Il y avait toujours quelque chose qui m'a interpellée. Et peut-être je me dis, puisque je suis en face d'un spécialiste qui pourra nous donner réponse, parce que vous avez touché aussi à l'industrie musicale, vous intéressez aussi au cinéma. Entre 2005 et 2010, entre on va dire 2000-2010, nous assistons à une surérotisation du corps féminin selon les codes de désirabilité universelle, voire même homoérotique, par exemple, qu'il s'agisse de l'industrie cinématographique. Je pense particulièrement au film de Hina Maïsara, Hiya Fauda, par exemple, ou bien l'industrie musicale à travers les quelques vidéoclips que vous avez étudiés, sur lesquels vous avez rédigé également un article très intéressant. Comment peut-on expliquer, d'ailleurs vous avez parlé de cette question de censure, comment peut-on expliquer qu'un texte littéraire pourrait facilement faire l'objet d'une censure ou d'une autocensure si l'auteur veut être publié, ou bien même, par exemple, un article du journal peut aussi faire l'objet d'une censure. Comment se fait-il que l'image qui est beaucoup plus puissante en termes d'influence circule sans grandes objections, notamment dans l'industrie cinématographique, musicale? Je sais qu'au cinéma, on paye notre ticket pour y accéder à ce contenu, mais comment se fait-il que les films, en subissent un peu moins cette censure ou cette autocensure? Au contraire même, on disait que c'était un peu exagéré parfois même. ou c'est osé pour dire, en fait, pour Saint-Dieu, c'est question de tabou.
Alors, je suis en léger désaccord avec vous.
Okay.
Tant mieux, ça crée du débat. Il me semble que, justement, comme vous le disiez, l'image étant beaucoup plus diffusée que l'écrit, l'image est plus surveillée. Et je ne pense pas qu'il y ait plus de censure dans l'écrit que dans l'image. On a eu des affaires de censure de l'écrit qui ont été médiatisées, à juste titre, parce que cette censure était scandaleuse. Mais cela ne veut pas dire que ceci soit si fréquent que cela. Pour ce qui est, par exemple, de l'industrie musicale et des vidéoclips, il y a déjà plusieurs types de vidéoclips. Il y a les vidéoclips qui vont être produits par les grandes multinationales, ou du moins locales, ou les très gros producteurs locaux, et dans lequel il va y avoir une érotisation absolument évidente du corps féminin, à peu près comparable à une version un peu soft de ce qu'on aurait dans des clips européens ou surtout américains en matière d'érotisation du corps. Quand même un petit peu moins quand il s'agit des clips qui sont produits par ces sociétés de production qui, ironiquement, la plus grosse a quand même comme siège Riyad en Arabie Saoudite, c'est Rotana. Et puis vous avez les clips produits localement par des producteurs, des clips avec 3 sous, et où on peut aller beaucoup plus loin effectivement dans l'érotisme, non pas tant dans le corps dénudé, mais que dans les allusions plus ou moins obscènes des textes qui sont chantés avec des mines affolées. Enfin bon, des starlets se baladant dans une bananeraie et tenant des bananes avec des textes d'une haute portée littéraire du genre « j'adore les bananes, j'adore avoir une banane dans ma bouche » et ce genre de choses, est fondamentalement fait pour créer le buzz. Ça permet d'avoir un gain pour la danseuse, parce que à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment parler de chanteuse. Enfin, on n'est pas dans du Oum Kalsoum, hein, dans ce genre de choses. On est vraiment dans Anon 3, on susurre des quelques obscénités avec un clin d'œil subjectif, suggestif, léger et subtil. On risque quand même, particulièrement en Égypte, on risque parce que les danseuses qui font 3 mois de tôle pour avoir fait des clips comme ça, il y en a eu et il y en a régulièrement. Au point où on peut se demander si c'est pas « je vais me faire 1 million de vues sur telle ou telle plateforme Internet, de toute façon, il y en a que pour 3 mois de tôle et c'est pas bien grave et je vais pouvoir ramener le pactole par la suite ». Parce que ce type de clip avec une franchement obscène sont effectivement courants. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, sinon, ceux qui sont à un niveau quand même plus raffiné, je crois que ça commence effectivement au tournant du 21e siècle, où on voit qu'au Liban se font beaucoup de clips où les filles sont de plus en plus dénudées, mais avec quand même un érotisme de bon ton. On n'est pas dans l'obscène, on est dans l'érotisme. On l'aura avec... peut-être Nancy Agram avec le titre le Feshagatig Keda qui arrive dans les années 2000 et où elle fait la lessive avec les c'est un petit peu mouillé, donc on voit bien ça, et puis elle a un corps charnu qu'elle sait parfaitement bien mettre en scène. La réplique égyptienne avec Ruby qui arrive aussi au début des années 2000. On continue avec ce type d'érotisation du corps féminin avec des parfois de véritables chanteuses, qu'elles soient bonnes ou pas, mais qui ont effectivement des voix plus ou moins intéressantes et qui montrent de plus en plus leur corps. Oui, l'interprète, la chanson arabe implique que l'on soit à la fois une image et non simplement une voix, mais ceci depuis fort longtemps. Ce qui serait intéressant, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, c'est de temps en temps le côté légèrement homoérotique. On aurait ça particulièrement en ce moment avec les clips de Mohamed Ramadan, où tout en affirmant absolument sa fière hétérosexualité, et se présentant avec des filles, des filles autour de lui, il n'y a pas un seul clip de Mohamed Ramadan dans lequel il ne soit pas torse nu et où il montre son six-pack d'abdos, ses pecs parfaitement dessinés, et quelque chose qui est légèrement homoérotique dans dans l'esthétique. Cette érotisation du corps masculin dénudé me semble être là la totale nouveauté dans le domaine arabe, quelque chose dont on a l'habitude dans les clips de rap américains, mais qui, en contexte arabe, est tout à fait inattendu. C'est vraiment quelque chose de la fin des années 2010, début des années 2020, cette érotisation Et elle est un petit peu liée à une poignée, en fait, d'interprètes masculins. La plupart du temps, c'est vraiment le corps féminin qui est montré. Est-ce que c'est là étonnant par rapport à la littérature? Nous sommes dans des industries capitalistes où il faut, et dans un monde globalisé où de toute façon ces clips arabes doivent rivaliser avec les clips américains et européens, et où il ne peut plus y avoir une spécificité. La spécificité, elle est au niveau rythmique, au niveau linguistique, à peine au niveau mélodique, et au niveau de la ligne vocale, mais pas dans la présentation du corps. On est vraiment dans une globalisation des présentations du corps, un petit peu partout, il me semble. Alors, Ayman pose une question. Est-ce que l'obscénité masculine, par l'obscénité masculine, je voulais dire l'auteur obscène dans la production médiévale est présenté comme homme. On peut avoir des courtisanes obscènes dans leurs remarques, mais de toute façon, le discours est le discours d'un auteur homme. Alors, sur l'obscénité des femmes, oui, bien sûr, ne pas. Peut-être ne précisais-je pas assez que je ne suis pas en train de parler de la réalité des comportements dans la vie, mais de leurs représentations littéraires et de leurs expressions littéraires. Bien entendu, les femmes peuvent être parfaites à l'occasion des mariages, à l'occasion des rencontres, au hammam. Bien entendu que les femmes peuvent être parfaitement obscènes. Mais cette obscénité des femmes-là, on va par exemple la découvrir dans le cinéma. Les films du cinéma, les films des cinémas tunisiens de la fin des années 2000 montrent effectivement cette Race for a Star, etc. Tous ces films-là montrent justement les femmes et leurs propos extrêmement libres. Mais ça, c'est une espèce de. Le cinéma réaliste veut justement dire quelque chose sur la liberté de parole féminine dans les sociétés traditionnelle. Moi, je parlais en fait de la littérature médiévale, ce qui est un autre sujet. Que les femmes aient été obscènes dans la réalité médiévale, tout à fait possible. Comme je disais, on n'en sait strictement rien, probablement, parce qu'on ne voit pas pourquoi elles le seraient en 1980, elles ne l'auraient pas été en 1880 ou en 1080. Elles l'étaient probablement, mais. Ce qui intéresse ces littérateurs hommes, ce n'est pas de montrer des femmes libres obscènes, c'est de montrer éventuellement des esclaves chanteuses obscènes ou des transgresseurs obscènes dans leurs propos, qu'ils soient le partenaire pénétrant ou le partenaire pénétré, selon le choix, selon la nature du personnage. Et c'est en cela que l'obscénité est masculine. Voilà, j'espère être plus clair sur ce point.
Et dans un point de vue socio-culturel, bon, on parle de silence, comme le sujet de notre revue de cette année. Dans un point de vue socioculturel, le silence s'impose lorsqu'il est question de parler du désir et du corps qui sont jugés tous les deux comme sujet tabou dans le monde arabo-musulman contemporain. Mais or, que vous avez déjà mentionné, quand on remonte dans le passé, la culture arabo-musulmane était glorifiée par cette célébration de jouissance, genre dans le texte comme Mille et une nuits, ainsi que dans le fameux traité érotologie. Du coup, selon vous, à quel moment le corps, le désir, devient un tabou dans la littérature arabe, et de quelle manière s'opère ce basculement, et quelle est donc l'origine de ce tabou?
Ben, je crois que c'est ce que je disais en fait au début de mon intervention. C'est cette triple raison que j'expliquais au début. Le moment où on bascule dans un tabou du corps, c'est le moment où la littérature de l'élite, la littérature d'Adab, de la Rassa, va être la littérature de tout le monde. C'est le moment où on s'aperçoit qu'il est nécessaire d'hétéronormaliser le désir, parce que sinon nous sommes le contre-modèle dans le miroir horrible que nous tend le colonisateur. Et c'est parce que les pures jeunes filles lisent la littérature et qu'elles ne peuvent pas, on ne peut pas les exposer à de telles indécences. Donc c'est là où il y a un moment chaste. C'est aussi sans doute un moment où l'obscénité, là dans le réel espace public et non pas dans la représentation, va peut-être quelque peu baisser. On sait que jusqu'au 19e, il y a des représentations de théâtre de marionnettes, de théâtre de rue, dans tout l'espace arabo-musulman. Et que ce théâtre d'ombre, parfois, avec des figurines que l'on met derrière un tissu huilé, ou éventuellement ces marionnettes, peuvent avoir une liberté de ton allant jusqu'à la plus extrême obscénité. Les États, à partir du moment où il y a des États qui naissent, qui s'installent, eux vont se donner pour tâche de réguler cette obscénité publique tout au long du XXe siècle, enfin dès la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle. Ce moment prude est le moment colonial et il continue dans une certaine mesure dans notre présent post-colonial, où il faut, pour les sociétés et les États, naviguer entre une multiplicité de références. Nous sommes à un moment, le moment prude est en train de s'affaisser en quelque sorte, parce qu'il y a une mondialisation des références qui fait que des espaces du dire plus transgressifs s'ouvrent, mais en même temps, il y a des réactions identitaires qui confondent la pruderie avec l'identité arabo-musulmane même et qui réagissent de façon très violente en présentant comme étant une influence néfaste étrangère tout ce qui pourrait être justement exhibition d'une liberté du corps. D'où par exemple les réactions extrêmement violentes, nous avons eu l'occasion de le voir lors de la série des conférences à l'Institut du Monde Arabe, à tous les mouvements de revendication LGBT. Parce qu'il ne s'agit plus là simplement d'une pratique sexuelle qui peut être discrète, il s'agit d'une revendication d'une identité, et à partir du moment où il y a revendication, le discours devient insupportable, d'une part pour les franges les plus conservatrices de la population, et d'autre part pour les États qui tirent leur légitimité justement de leur manière de tenir et de renforcer une identité nationale pure qui implique ce rigorisme, en quelque sorte. Et puis, les États ne se sentent pas toujours légitimes vis-à-vis de leur population. Frapper là où l'on peut avoir quelques gains politiques et parfois une solution de facilité.
Merci beaucoup. Alors, une autre question, en fait, justement, vous avez évoqué cette question, en fait, la question du désir féminin, les identités sexuelles, la sexualité un petit peu en général, qui devient de moins en moins allusive, quoique il y a bien sûr il y a des écrivains qui prennent justement ce parti pris. Et je pense notamment à l'écrivain saoudien Abdoukhal, puisqu'il vous avez parlé de cette idée de sexualité de substitution. Peut-être que vous en direz un peu plus. Et justement, il y a des écrivains qui s'affranchissent des limites. Quand je dis tabou, c'est les limites imposées socialement. Ils choquent par leurs écrits, ils écrivent justement ces questions taboues. Et est-ce que le tabou est levé, selon vous, est-ce que le tabou est levé différemment que l'on soit écrivain ou écrivaine? C'est une question purement du genre. Autrement dit, y aurait-il une différence dans le traitement littéraire du tabou, de ce sujet tabou, en fonction du genre?
Ça, c'est une question piège à laquelle j'avoue ne pas avoir suffisamment réfléchi. Est-ce que les écrivaines... Je n'ai pas l'impression instinctivement, mais mon discours n'est pas forcément très scientifique, je n'ai pas a priori l'impression qu'il y ait une différence de traitement vis-à-vis du fait d'outrepasser une limite ou de... traiter, de franchir un tabou, je n'ai pas instinctivement l'impression qu'il y ait une différence selon qu'il s'agisse d'un auteur ou d'une autrice. Si on reprend cette question de homosexualité, là je prends carrément homosexualité, pas homoérotisme, j'assume le mot moderne. Le premier roman arabe dans lequel le héros principal est homosexuel, est une autrice, c'est la Libanaise Hoda Barakat dans La pierre du rire. Et là, on est un roman de, je sais pas, de 89, 1989 à peu près. Auparavant, on a des personnages homosexuels. Il y a une magnifique pièce syrien Sardal Awadnous qui s'appelle Les rites pour une métamorphose, ainsi traduite en français, dans lequel il y a deux personnages hommes. Alors là, plutôt, c'est de l'homoérotisme. Ils ne se définiraient pas comme homosexuels. C'est deux hommes qui ont des rapports sexuels entre eux, sans nécessairement que cela débouche sur une identité ou sur une interrogation. Mais ça débouche sur une interrogation identitaire, par contre. Et c'est un texte d'un homme, mais ce ne sont pas les personnages principaux de la pièce. Il n'y a pas un personnage plus principal que l'autre dans cette pièce, c'est une espèce d'égalité de traitement. Je ne suis pas seul. Reprenons les personnages personnages lesbiens dans des romans libanais, ou égyptien. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement une différence de traitement ou d'oser dire ce qu'on veut dire selon que l'on soit une autrice ou un auteur. La question qui se pose, c'est peut-être plutôt où on est et quels sont les risques que l'on prend vis-à-vis d'une censure locale, vis-à-vis de la façon dont... C'est-à-dire que... Est-ce que l'on écrit avec son nom ou est-ce que l'on prend un nom d'emprunt? Par exemple, je me rappelle d'un très beau texte saoudien dans lequel l'autrice raconte comment elle a eu son premier rapport sexuel alors qu'elle était très jeune avec le chauffeur indien ou pakistanais de la maison. Et où c'est très érotique, c'est torride, hein, l'espèce de petite chambre dans laquelle il y a le chauffeur pakistanais et elle qui ose. Et elle est totalement consentante et elle est absolument, elle doit avoir 15 ans, elle a sa première, elle est déflorée par le chauffeur et c'est raconté par une autrice adulte saoudienne, mais c'est pas son nom qu'elle signe, le nom est un nom d'emprunt. On ne peut pas raconter ça. Et puis, ce n'est pas publié en Arabie Saoudite. Le roman est publié à Beyrouth. Donc, la question qui se joue est plus d'où on vient, qu'est-ce que l'on peut dire, est-ce que l'on le dit en son nom, est-ce que l'on prend un nom d'emprunt. Je pense qu'une auteure libanaise ne prendrait aucun risque. L'inexistence de l'État fait qu'on dit ce qu'on veut, fondamentalement. Une autrice égyptienne va dire « Eh ben, j'y vais », parce qu'on va être une féministe égyptienne, cheveux dans le vent. Donc, elle va oser, mais elle va prendre un petit peu plus de risques. Maintenant, je ne pense pas qu'une autrice omanaise ou yéménite oserait prendre un risque pareil en son nom. Ça dépend des États, ça dépend de la taille de l'État, ça dépend de est-on dans le pays ou est-on dans la diaspora. Une autre condition de l'extrême liberté, c'est de carrément parler de l'extérieur. C'est être dans la diaspora. Et dans ce cas-là, effectivement, on s'affranchit de toutes les censures. Mais les littératures de la diaspora ne sont pas toujours en arabe en même temps. Elles peuvent l'être. Il y a quantité d'autrices arabes installées à Paris, par exemple, et qui écrivent sans craindre pour elles-mêmes quoi que ce soit. En même temps, on ne veut pas que le livre soit interdit. On ne veut pas condamner un livre à une circulation sous le manteau. Donc, il y aura de l'autocensure dans la façon de parler, dans la présence ou non de termes franchement obscènes, des fois que ce soit lu par un censeur sourcilleux, ou des fois que l'on veuille que son livre puisse se vendre à la grande foire du livre de Riyad, ou à la grande foire du livre du Caire. Il y a des choix à faire. Soit je vais avoir un langage extrêmement cru et je vais dire absolument tout ce que je veux et mon livre va tourner parmi 150 intellectuels dans le monde arabe qui vont le lire, ou je vais faire un best-seller, mais si je fais un best-seller, ce n'est pas exactement aux mêmes conditions que la totale liberté de parole.
Alors, nous avons deux questions du chat. Je pense qu'on pourra vous les poser avant de...
conclure, oui, parce qu'on arrive à 7 minutes de la fin, oui.
Non, je pense qu'on aura encore une petite question pour vous, plutôt légère, on va dire. Alors, première question de Dominique Lefebvre. Obscène, est-ce qu'il sort de la scène? C'est plus qu'un fantasme et l'intimité est exhibée. Est-ce possible de parler sans tabou? Dans le dernier film, Le Caftan Bleu, passé au Festival international du film à Marrakech, des scènes de sauna masculin sécularisé sont évoquées. Une femme s'est exprimée en disant « On n'a pas de lieu comme ça pour les femmes au Maroc ». Voilà, je pense que c'était là la question.
Alors, personnellement, n'étant jamais entré dans un sauna pour femmes au Maroc, ou le jour des femmes dans un sauna au Maroc, je ne saurais dire quelles seraient les limites. Mais je ne suis pas sûr de complètement comprendre le sens de la question. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est montrable dans... qu'est-ce qui, de la réalité référentielle, est montrable dans les œuvres? D'accord, des hommes ont une sexualité dans le sauna. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Il y a des saunas dans lesquels les hommes ont une sexualité, il n'y a pas de sauna dans lesquels les femmes ont une sexualité. Est-ce peut-être parce que la dame ne sait pas où sont les saunas où des femmes auraient une sexualité, éventuellement? Et ce ne sont pas tous les saunas dans lesquels les hommes ont une sexualité. Généralement, dans le monde arabe, dans une ville dans laquelle il reste des saunas, tous les pays arabes n'ont pas des saunas dans le sens où il y a des... par exemple, en Égypte, il n'y a quasiment plus de hammam au sens traditionnel du terme. Ça a disparu dans les années 70, alors que ça s'est parfaitement maintenu, par exemple, en Syrie, ou ça s'est maintenu au Maghreb. Voilà, ça dépend des pays. Quand il y a des saunas qui ont une réputation, c'est le sauna qui a une réputation. Donc, ce n'est pas une règle générale. Donc, deux tiers des femmes voilées se cachaient le visage lors des scènes. S'agit-il d'une fiction ou d'un documentaire? Car si c'est un documentaire, il est peut-être logique que des femmes dans un hammam décident de se dissimuler le visage. Personnellement, je dissimulerais si une caméra arrivait dans un sauna devant le film. Ah, d'accord, c'est vrai, en regardant le... oui, parce qu'on ne peut pas voir ça en public. La consommation, ça c'est un point qui est intéressant, donc Dominique Lefebvre, c'est que culturellement, la consommation de l'obscénité ne peut pas être, n'a pas de, ne, doit se faire sans témoin. Et donc, à partir du moment où vous voyez de l'indécence, vous pouvez parfaitement voir de l'indécence seul. Mais si vous voyez de l'indécence dans un milieu mixte, là, vous voyez ce que vous n'êtes pas supposé voir devant l'autre, en quelque sorte. Des femmes ensemble peuvent voir de l'indécence et elles vont utiliser le rire pour cacher la gêne. Mais si on est dans une salle de cinéma, cela veut dire qu'il y a un public mixte d'hommes et de femmes, et que donc des femmes vont être exposées à l'obscénité devant des hommes. Et là, nous sommes effectivement devant une limite culturelle où la gêne devient extrême. La consommation de l'obscénité est homosociale dans le monde arabe pour l'instant. Ou du moins de façon générale. Il y a forcément des exceptions généralement liées à la classe sociale, mais en gros, la consommation de l'obscénité est homosociale, au sens de les hommes entre eux, les femmes entre elles peuvent consommer de le voir, être exposées à de l'obscénité. Mais être exposé à de l'obscénité en contexte mixte est a priori un... puisque là on parlait de tabou, là on est plutôt effectivement dans une situation de tabou. Mais là encore, ça dépendra aussi d'une situation. Le tabou le plus extrême serait être exposé à de l'obscénité en contexte familial. Mais songez, ce serait pareil. Même dans un contexte français complètement sécularisé, vous ne pouvez pas voir de la pornographie en compagnie de membres de votre famille. C'est un bloqueur culturel extrême. Je dirais que dans le monde, pour l'instant, dans le monde arabe, l'idée dominante serait que on ne peut même pas voir l'obscénité en contexte mixte. Je ne sais pas si vous êtes
Merci pour
d'accord et si vous partagez cette impression. Mais là, on entre, j'ai l'impression d'entrer en dehors de mon domaine où je peux parler savamment. Je suis plus dans l'impressionnisme, puisque là, c'est vraiment une question d'anthropologie et de sociologie. On dépasse de loin le littéraire. Mais là où c'est intéressant, Dominique Lefebvre, c'est qu'effectivement, on est là dans la consommation consommation de la production culturelle. Moi, effectivement, je m'intéresse aux productions culturelles elles-mêmes. Je ne me suis pas forcément intéressé au mode de consommation de la production culturelle. Et je crois que vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention sur ce point.
On a une autre question de Aïnen.
Et ce sera la
Dans
dernière, donc.
la société anglophone, le tabou est hiérarchisé selon trois catégories, selon une critique chronologique. La première, le tabou religieux. La deuxième, le sexe et le corps. Et la troisième, c'est le tabou socio-moderne. Et il s'agit des insultes visant les minorités éthiques et du genre. Est-ce qu'il y a une hiérarchie similaire pour le tabou dans la société arabe?
Là encore, c'est Soel Taghizi, une question qui est extrêmement difficile. Il me semble instinctivement, alors encore une fois, je ne vais pas être très scientifique, je dirais que instinctivement, il me semble que le tabou religieux est en tête serait en tête de liste des tabous. On se moque de tout sauf du religieux. Et ainsi, on ne se moque pas du prophète, on ne se moque pas de Jésus, on ne se moque pas d'eux, etc., etc., etc. D'où évidemment les incompréhensions culturelles énormes avec les usages particulièrement français, européens et américains de façon générale. On peut se moquer des pratiques religieuses. En fait, les pratiques religieuses ne sont pas quelque chose qui échappe à la moquerie. La police du corps religieuse est quelque chose dont on peut se moquer. Mais le fondement même du dogme et les symboles centraux du religieux islamo-chrétien, puisque la judéité est sortie du monde arabe pour des raisons historiques évidentes, ce tabou-là reste présent. On ne se moque pas du Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est envisageable, en quelque sorte. Là, nous sommes devant un tabou fort. Les autres tabous, le tabou du sexe et du corps, je ne crois pas qu'il existe vraiment. Puis, enfin, oui, c'est à différents degrés, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Sur les tabous sociaux modernes, nous sommes dans un monde globalisé, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'expositions aux nouveaux tabous modernes dans le dire, dans l'expression, sur les minorités ethniques, les minorités de genre, etc. Ce sont des choses qui sont connues tout simplement parce que la globalisation des références fait que on apprend. On apprend ce qui est vu ailleurs et qui est présenté comme une nouvelle norme de la modernité, ces normes ne cessant de changer. Maintenant, on sait qu'on est supposé ne pas se déguiser en Indien. Okay. Alors, c'est un peu différent, c'est qu'on sait qu'on n'est pas censé se déguiser en Indien quand on est Américain et quand on est descendant des gens qui ont exterminé les Indiens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un Égyptien ou un Tunisien n'aurait pas le droit de se déguiser en Indien, mais en même temps, pourquoi se déguiserait-il en Indien et pourquoi y aurait-il un costume de cow-boy qui, de toute façon, fait référence justement à une production culturelle née dans le cadre américain. Tout est extrêmement complexe et cela veut dire que l'individu doit réagir, réfléchir vis-à-vis d'une multiplicité de normes. Voilà.
Pardon, alors juste pour clôturer, justement pour terminer un petit peu cette rencontre, nous avons toujours l'habitude de demander à nos invités de nous suggérer une lecture qui aurait, voilà, une lecture de moment pour, voilà, pour tous ceux qui ont assisté à cette merveilleuse rencontre.
Alors, je conseillerais de lire la traduction qui a été faite du roman de Mohamed Abdennabi, Fi Ghurfat al-Ankabut, La chambre de l'araignée. Qui est vraiment, c'est un beau roman que je recommande. Je dirais, puisqu'on parle de ces questions liées au thème de la sexualité, j'avoue que le roman que j'ai moi, je commence par un autre traducteur, c'est pas moi qui l'ai traduit le premier. Alors je vais mettre en deuxième position, je vais mettre un que j'ai traduit et qui est justement le roman saoudien de Abdou Khal qui est narré par un tortionnaire violeur. C'est un roman extrêmement dur dans lequel il n'y a aucun personnage à sauver. Le narrateur est ignoble, les hommes sont ignobles, les femmes sont ignobles. C'est un monde absolument horrible et dystopique, mais qui est en même temps l'Arabie saoudite telle que la dépeint cet auteur saoudien. Et donc les basses œuvres me semblent un des romans les plus forts qui a été écrit dans la péninsule arabique dans ces dernières années. Voilà ce que j'en commenterai.
Alors, merci infiniment.
Merci.
Merci Anan d'avoir co-animé avec moi cette rencontre. Merci à cher Frédéric Lagrange de nous avoir accordé cette rencontre. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous le 27 février pour une autre rencontre avec Guillaume Leblanc et pardonnez-moi, alors, et Orazio Herrera autour de la parole subalterne, justement pour continuer ce cycle de rencontres autour du silence. Je vous remercie et je vous
Merci
souhaite
à
à tous
vous.
une bonne soirée. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ah.
Ça va?
Merci Anna de nous avoir.
Oh, mais de rien, de toute façon, compte, je suis là, donc lancer le Zoom, ce n'est pas du tout un problème. Est-ce que vous pouvez toujours arrêter de votre côté l'enregistrement, je pense. Vous avez pas
Oui,
d'accord, ok, parfait. Moi, je l'arrête.